Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Oh là là, mes auditeurs, mes auditrices, mes fidèles amis, quelle chance on a aujourd'hui. On a Rebecca Zlotowski dans le podcast. Quelle joie, on vit ça ensemble. La réalisatrice Rebecca Zlotowski a pris le temps, en revenant de la Maestra de Venise, avant de partir à Toronto, de venir dans Les mecs que je veux ken. Vous vous rendez compte? Je tiens à vous remercier car c'est grâce à vous, à votre écoute si fine et si sensible que le podcast continue d'exister et d'évoluer et qu'on a la chance d'avoir des artistes comme Rebecca qui viennent partager leurs pensées du moment avec nous. Je vous propose qu'on soit à la hauteur de ce rendez-vous et que ce mercredi 21 septembre, on soit tous présents en salle pour la sortie du nouveau film de Rebecca, Les enfants des autres. C'est son film le plus grand public. À la base, Rebecca réalise plutôt des films d'auteur, mais là, c'est très accessible dans le plus beau sens du terme. C'est un film tellement universel qui va vous toucher, vous divertir, vous intéresser, dont vous aurez envie de parler à vos amis. S'il vous plaît, faites des stories quand vous êtes en salle pour dire à tout le monde d'y aller. Comme vous le savez, le cinéma a beaucoup souffert des Covid et confinements. Aujourd'hui, les plateformes sont infinies, on est tous scotchés devant nos séries. Et aussi trépidante soit-elle, je vous propose qu'on fasse une pause pour un film encore plus trépidant, celui de Rebecca. Je compte sur vous, vraiment. Je vous attends encore plus au tournant que quand je vous demande de venir voir mon spectacle ou d'acheter mon livre. Ça me tient à cœur. Et la pérennité du podcast tient à votre engagement de soutenir les invités, de soutenir leurs œuvres fragiles qui ont besoin de vous. Donc toutes et tous ensemble au cinéma ce mercredi pour voir le nouveau film de Rebecca, Les enfants des autres. Et d'ici là, je vous propose sa voix grave, ce moment d'intimité dans son joli bureau entre elle et moi. Oui, et là, c'est le bruit de mon frigo. Mais un technicien d'Arty vient demain. En attendant, Rebecca, bonne écoute.
Stiland.
C'est ton mec?
Quelqu'un vient l'appeler en disant j'ai trouvé votre portefeuille dans le cinquième.
Hein? Ah ouais? C'est la journée des émotions puisque moi, ce matin en... Je savais que je te voyais et ouais. Je pense que j'étais très excitée. Résultat, je mets la carte SD et je vois qu'elle ne marche pas. Donc, j'ai couru en acheter une autre.
Ma pauvre.
mais c'est toujours comme ça quand c'est les trucs que tu...
Mais tout va bien. Que... Et attention, si ça ne marche pas cette fois-ci, on le refera une fois.
Ah oui, non, mais
j'ai trop
kiffé
te voir à Belle-Île, c'était bien.
Ouais, mais moi, ça, c'était un peu en mode voyance parce que je suis rentrée et je suis allée sur le site de la PHP. J'ai fait une demande pour congeler mes ovocytes.
C'est bien.
J'avais vraiment besoin de cette discussion et de quelqu'un qui m'encourage, franchement.
Ah bah ouais, faut le faire. Et tu vas le faire quand, alors?
Bah là, alors, j'ai envoyé toutes mes infos et donc j'attends plus que la réponse. Je pense que, en fait, quand toutes les meufs vont comprendre que c'est possible, bah tu vas avoir genre la moitié de la France qui va le faire.
Bah ouais.
Et il y a déjà beaucoup, beaucoup de demandes et ils en sont au début du truc. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent me faire pas mal patienter.
T'as quel âge?
33.
Ça va être super!
Bah ouais, c'est
maman
ça,
qui
pas
peut
de
le faire.
Stress, et exactement. Et
tu seras sûre avec ce que tu mets de côté, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, d'avoir une grossesse quand tu veux. T'imagines?
Enfin, jusqu'à 45 ans max, mais c'est logique. Oui, bah après 45 ans, ça commence à... En effet, parce que t'as plus...
Non, mais jusqu'à 40 ans, c'est déjà ça.
Ouais,
non,
jusqu'à 40
Pourquoi
ans.
Pourquoi nous,
ouais.
Comme les hommes?
Ouais.
On n'aurait pas envie de faire des enfants à 52 ans?
Là, de toute façon, ça ne dérange pas, j'enregistre.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais grave. Tu t'es jamais demandé si tu allais traiter ça dans le film aussi?
Non. Non, mais d'une certaine manière, si tu veux, le point de départ, c'est quand même de se dire, il y a une injustice ontologique.
Ouais, c'est clair.
Il y a une injustice métaphysique, il y a une inégalité biologique là-dedans qui est un scandale. Mmh. Et tout ce qui peut nous permettre de nous éloigner de l'animalité pour nous faire rejoindre l'humain, c'est-à-dire le trafiquer par, le, par la science, par la volonté, par l'imagination du scénario, oui, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que même quand on me dit... Oui, parce que là, tu viens de me dire, jusqu'à 45 ans, les ovocytes, parce que bon, de toutes les façons, après, ça va. Ben non. Moi, j'adore l'idée que j'essaye... Et je vois bien qu'il faudrait le déconstruire en moi aussi. Je vois bien que quand on lisait dans Info du Monde, elle a un enfant à 57 ans, on se disait, tiens, c'est très étrange,
oui, comme
c'est l'Italie, ouais. Là. Donc. Mais en vérité, autour de moi, j'ai des hommes qui ont des enfants à 50, 52, 55, 57, 60... Ça nous choque pas, on se dit, tiens, ces enfants-là connaîtront pas leurs parents vivant très longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'une femme aurait pas le droit, elle aussi, de se dire qu'elle va mourir en laissant un enfant jeune et un homme aussi, voilà.
C'est clair. Surtout quand tu vois le nombre de mecs de même 70 balais qui rencontrent des meufs jeunes et qui font des gamins beaux très tard, quoi.
Évidemment. Ouais. Enfin, ils sont pas si... Alors, est-ce qu'ils sont très nombreux? Je sais pas, il faudrait voir les chiffres, mais, ça ne suscite pas la même réaction...
Oui,
et ou de consternation sur la question de la responsabilité. Genre, c'est irresponsable. Non, pas du tout. Personne ne dit d'un homme de 70 ans, c'est irresponsable. À la rigueur, on dit, bon, il va pas vraiment le connaître.
Ouais, c'est ça.
Sur une femme, je pense qu'il y aurait vraiment une espèce de soupçon de folie même, hein, d'hystérie.
Ouais.
C'est en fait une femme qui aurait envie de faire un enfant ou qui ferait un enfant à 65 ans. Bon, on est au-delà de... Donc, faut s'interroger. Cette vision-là, cette image-là, elle serait folle.
Ouais.
C'est quoi le film d'ailleurs ce... Oui, c'est dans le Donzelli.
Ouais.
Il y a une série de Valérie Donzelli dans laquelle Miu Miu tombe enceinte à 65 ans, genre.
La série de Valérie Donzelli.
Ça s'appelle
Donzelli,
Nona et ses filles. Nona et ses sœurs. Nona et ses filles, je crois.
D'accord.
J'ai pas vu parce que c'était en plein dans mon tournage, mais.
Ouais.
Je crois que c'est ça.
Si ça te dérange pas, mange pendant et je te lis ton petit poème et comme ça, ça ne spoil pas des questions que je voudrais te poser.
Vas-y.
Je me dis, je les ai pas.
Bien sûr, vas-y.
Rebecca Zlotowski sort un nouveau film bouleversant, Les enfants des autres. Un film qui parle d'amour et des branches de l'amour, comment en tombant amoureuse d'un homme qui est papa, on tombe aussi amoureuse de son enfant. L'héroïne Rachel, jouée par la sublime Virginie Efira, s'attache terriblement à un enfant qui ne sera jamais le sien. Elle est prof de français et passe ses journées à transmettre et s'attendrir devant des jeunes dont elle n'est pourtant pas la mère. Elle aimerait bien devenir maman, mais le temps presse. C'est tout en douceur que Rebecca nous montre ce moment dans la vie d'une femme vers 40 ans où la question culmine, est-ce qu'il faut se décider à avancer sans, faire partie de la fière communauté des femmes qui n'auront pas d'enfants, ou trouver à tout prix le moyen. Je ne veux pas plus révéler du film, mais j'étais souvent surprise par les larmes. Ce film est incroyablement moderne, sensible et sensuel comme tous les films de Rebecca. Je suis honorée de la recevoir dans mon podcast. J'ai aimé voir le deuil porté par Léa Seydoux dans Belle Épine, l'injustice par Tahar Rahim dans Grande Centrale, j'ai aimé les fantômes de Planétarium et la question d'une fille facile, comment être une femme? Est-ce qu'il faut être belle? Est-ce qu'il faut être mère? Merci Rebecca de nous faire réfléchir et ressentir si fort, comme c'est bien de vivre aujourd'hui dans un monde où il y a au cinéma les images rêvées par Rebecca.
Ah, au moins ça rime à la fin.
Ouais.
On m'a dit c'est un poème, je dis mais où sont les Alexandrins?
Ouais, voilà, c'est ça.
Je suis très choquée. Merci.
Bah, merci. Merci à toi. Merci à toi. Et c'est vrai que je suis très heureuse parce que je suis une grande fan de ton cinéma.
Il faut quand même dire aux auditeurs que tu fais partie de l'un de mes films.
Oui.
Dans Planétarium, Rosa a un rôle, qui est un rôle que les observateurs vont trouver sur, devant un tableau de justement de constellations lui aussi, qui est vraiment dans le générique de début, avec des demoiselles du téléphone qui rebranchent en fait les communications les uns avec les autres. Donc t'es vraiment une
standardiste.
Ouais, non. Tu parles des branches du film,
ouais,
mais moi je dirais que tu connectes en fait les conversations, les connexions, les relations entre elles dans le film.
Bah, je connecte les deux sœurs, Nathalie Portman et Lily Rose Depp, donc rien que ça en fait. En vrai,
patienter, oui, oui, combien que j'ai patienté. Donc voilà. Ouais. J'ai vraiment kiffé d'ailleurs quand tu étais dans... Je voyais qu'il y avait une sorte de plaisir, je me souviens très bien de toi d'ailleurs à ce moment-là sur le plateau, il y avait une débauche quand même de costumes splendides et de coiffures et de... Il y avait une direction artistique très précise, quoi. C'était un film d'époque, dans les années 30, en France. Et moi, je sentais en tous les cas qu'on s'amusait à reconstituer, qu'en même temps, il y avait une vérité là-dedans. Je sais pas. J'adorais faire ce film.
Même s'il
a fait un gros bide.
Oui, mais ce qui est incompréhensible, mais parce que... Enfin, il aurait dû avoir la Palme d'Or. Parce que les gens voient différemment un film qui a eu la Palme d'Or qu'un film qui sort en salle. Ils sont prêts à...
Bon, non, moi, je vois toujours à l'endroit de... Il y a une part, effectivement, de la carrière du film qui a été abîmée par le fait qu'il n'ait pas été pris à Cannes alors qu'il était vraiment parti pour.
Ah ouais.
Comme les deux premiers étaient, que là, il y a vraiment eu un effet de déception d'un coup. Ouais. Et de l'industrie, et du coup, comme un bad beat au début.
Bah ouais.
Tu pars sur une mauvaise direction, c'est un peu comme quand on te présente quelqu'un en te disant, tu vas voir, il est hyper drôle.
Ouais.
Le mec arrive et il dit prout, t'es mort de rire. En revanche, on te dit de quelqu'un, il est vraiment insupportable. Tu mets longtemps avant de comprendre que l'autre s'est peut-être trompé. Il y a des discours d'escorte ouais, qui entourent les objets et les gens.
Mais pourtant, ce film est sublime. Et moi, je me souviens très bien de cette journée de tournage. J'étais en effet époustouflée par le décor. Et aussi par ta gentillesse, parce que c'était un petit rôle, mais j'étais comédienne à la base, donc trop contente de pouvoir même faire un petit rôle dans un film de Rebecca Zlotowski. Et
il y avait Nathalie Portman, hyper heureux.
Bah, c'est clair, et à la fête de fin de tournage, je me souviendrai toujours de Nathalie Portman qui se présentait aux gens en disant « Hi, I'm Nathalie bah. ». Ça m'a marqué, jamais. Quelle,
genre, ouais.
Oui, on sait, quoi, mais en même temps, quelle évidemment. Modestie et quelle...
Bah, elle va pas se présenter en disant bonjour.
Ouais, c'est beau, enfin, je sais pas, c'était tellement...
C'est marrant, ça, c'est vraiment le truc avec la célébrité, la notoriété. Ce qui est difficile, et tu le formules bien, c'est compliqué d'en savoir plus sur les autres que eux n'en savent sur toi. C'est ça qui rend les choses asymétriques dans la rencontre avec les gens célèbres. C'est pas tant que... c'est évident qu'elle va se présenter en disant son prénom comme tout le monde, comme tout un chacun.
Ouais, ça m'avait marqué.
Mais sauf que nous, on le connaît, donc c'est compliqué.
On le connaît, et en même temps, je pense qu'elle nous mettait tous à l'aise parce que les gens la regardent, parce qu'elle est aussi magnétique. Et au lieu de faire en sorte qu'on ait honte un peu de la regarder, elle vient déjà affronter ce regard en disant ouais. « C'est moi, t'as le droit de me regarder ». Enfin, je trouve que ça permet, c'était hyper généreux. Et toi aussi, t'avais été généreuse, puisque tu m'avais dit, à la fin de la journée, tu m'avais dit « Merci Rosa d'avoir accepté ». De faire ce petit clin d'œil. Et je m'étais dit, mais waouh, enfin, c'est la seule fois dans ma vie qu'un réalisateur m'a dit cette phrase, quoi.
C'est vrai. Pourquoi Et pourquoi, à ton avis?
Bah, parce que d'habitude, je pense qu'il y a plus d'ego. C'est-à-dire que d'habitude, les réalisateurs, dans tous les cas, t'es forcément content d'avoir la chance de pouvoir jouer dans un film.
Ah ouais,
toi,
non,
c'était
moi,
hyper horizon. Enfin, c'était très.
Ouais,
horizon. Tu me voyais, quoi.
D'ailleurs, parfois, ça me joue des tours. Je me souviens de. Bah, je t'ai vue en fait comme une actrice, comme quelqu'un qui en avait sous le capot et qui n'avait pas envie de faire de la figure. Enfin, qui n'était pas destinée à faire de la figure. Et comme c'était un rôle qui était un petit rôle quasiment muet, enfin, c'était un petit rôle muet
oui,
presque,
oui.
C'était une apparition, c'était une présence comme ça. Et donc, quand je sens. Ouais, c'est vrai, j'avais l'impression d'être chanceuse, quoi, d'être privilégiée, d'avoir des vraies. C'est ça, que, d'ailleurs, c'est très compliqué quand tu es réalisatrice, c'est que sur les seconds rôles par exemple. T'as envie d'aller voir quelqu'un qui est un immense acteur pour lui proposer un rôle, mais évidemment, c'est pas le premier rôle, alors tu vas pas non plus. Le mec qui dit c'est pas assez. Tous les acteurs ou les actrices qui me disent ça, je sais qu'on a pas à travailler ensemble parce que je ne souhaite pas au film d'avoir pour second rôle que des sous-acteurs. Évidemment qu'il faut. Et a fortiori, quand c'est un rôle qui arrive en peu de temps ou qui a peu d'arrière-monde dans le film, t'es obligé d'avoir des super acteurs. Parce qu'il faut vraiment qu'ils incarnent très rapidement quelque chose et porter très... C'est marrant comme souvent les acteurs-actrices ne comprennent pas que c'est dans ces rôles-là
qu'on les
ramasse et qu'on les voit. Et qu'on les devine et qu'on les voit.
Mais complètement.
Et parfois, ça me joue des tours, tu vois. Parce que je me souviens d'une fille facile. Il y a un dîner au moment d'une fille facile, tu vois. T'as Naïma de Coltrane.
Bien sûr, sur la mer.
Voilà. Et c'était un dîner qui me tenait très à cœur. J'ai quasiment eu envie de faire le film pour passer cette soirée-là.
Ah ouais.
Et j'ai appelé plein de gens que je connaissais, qui étaient des super acteurs, actrices... des amis, des copains, des gens un peu célèbres ou pas, enfin de tout. Et je leur disais, voilà, c'est une soirée. C'est à Cannes, venez, on va être, ça va être comme une caresse. Ah oui, mais il n'y a pas de rôle. Bah non, mais c'est un dîner, on organisera. Oui, mais alors quoi? Et en fait, la moitié des gens ne l'a pas fait.
Ah ouais?
Parce que je pense que je leur ai présenté comme étant comme presque un service qu'ils allaient me rendre.
Mmh.
Alors qu'en vérité, cette scène, je la trouve hyper belle. Et
ah
ceux qui
ouais.
ont accepté et qui sont dedans... sont hyper contents d'être dans cette scène-là.
Ah, mais c'est
d'abord pour
clair.
Le moment qu'on a passé, et puis après parce que les gens les ont vus. Donc de temps en temps, j'ai une manière de présenter comme si je demandais un service, alors qu'en vrai, quand tu réalises, tu proposes un cadeau, t'offres un cadeau.
Mais bien sûr, et puis, alors après, c'est peut-être l'ego des acteurs, mais déjà, moi, je pense que j'avais déjà, même pour Planétarium, le sentiment que je voulais pas être que comédienne. Et donc, le fait de te voir puissante sur un plateau pour un film qui avait l'air de coûter si cher, c'était aussi inspirant. De voir une
qui, entre
femme.
Parenthèses, coûtait 900 fois moins cher que n'importe quel autre film en
des
costume
pogs.
Que n'importe qui aurait réalisé. Ben oui.
Ouais, ouais, ouais.
Mais qui coûte bien sûr, c'était mon plus gros budget, c'est ça.
C'était comme hyper impressionnant et c'était bien de voir sur un décor impressionnant une femme réalisatrice, tu vois.
Pour c'est vrai.
Moi, ouais, c'était un moment. C'était. Parfois, t'as besoin de signes. T'as besoin de voir les choses. C'est comme ton film. T'as besoin de ces films aussi pour faire avancer le discours, la réflexion.
Ta propre représentation de ta puissance, de là où tu pourrais être sans problème. D'une femme qui a presque ton âge, même si on a quand même 10 ans d'écart, mais qui n'a pas 252 ans, qui n'est pas Kakoshi, mais avec de la moustache, et qui n'a pas renoncé à toute féminité. Ouais. Moi, il m'a manqué... Il m'a manqué à un moment... Moi, il y avait plein... Quand on émerge avec... tu vois, on est toute une génération de réalisatrices qui avons autour de 40. Et souvent, on nous dit, donc Mia Hansen-Love, Audrey, Diwan, Julia Ducournau, Céline Sciamma, qu'a-t-elle qui les verrait, Sophie Le Tourneur,
Alice
Vinocourt. Tu vois. Il y a énormément comme ça, et j'en oublie certainement, de cinéastes de ma génération qui ont émergé. On nous disait, tiens, alors ça c'est nouveau. Je disais, non, c'est pas nouveau. Mm-hmm. Moi, quand j'ai commencé le cinéma, il y avait des femmes qui faisaient des films. Il y avait Noémie Lvovsky, il y avait Marion Vernoux, il y avait Anne Fontaine,
Nicole Garcia.
Il y avait déjà des femmes qui font des films. C'est juste qu'au bout d'un moment, on les oublie, ou il y a certaines femmes qui vont direct dans le cimetière des réalisateurs parce qu'on ne comprend pas pourquoi, mais après un ou deux films, bam, ça disparaît. Mm. On sait, il y a des explications évidemment économiques, hein, politiques à ça. Mais en termes de représentation de la féminité, j'avais d'un côté Claire Denis, qui était vraiment, évidemment, que c'était le cinéma qui me bouleversait le plus venant d'une femme en France. Peut-être à égalité à ce moment-là avec Noémie Lvovsky dans Petite ou La vie ne me fait pas peur. Mais en termes de féminité, de représentation, Claire Denis, tu vois, c'était... Ou Chantal Akerman, c'était pas des femmes en qui je pouvais me projeter.
Non.
Je pouvais pas me projeter dans leur féminité... dans une féminité généreuse ou sensuelle à laquelle je m'identifiais, moi. Voilà.
Complètement. Et en plus, j'ai l'impression que dans cette génération, c'était des femmes réalisatrices assez isolées, mais on sentait moins une sororité entre réalisatrices, une communauté. T'avais moins de scénarios partagés, comme là, comme si on tape Rebecca Zlotowski, on voit que t'es à l'écriture du prochain film d'Audrey Diwan. Donc on se dit que
j'ai travaillé avec Teddy Lucie Modeste, voilà. Qu'avec Céline Sciamma, on est très amies. Qu'avec Atel Kiveré, on était au collège ensemble, qu'avec Mia Hansen-Love, c'était sa mère était ma prof de philo, que la mère de Julia Ducournau était ma gynéco.
Incroyable.
Bon, après, on peut parler d'endogamie sociale. On peut parler d'un... Voilà, au-delà d'être des femmes, vraiment, ce qui nous réunit, c'est de venir de la même ville, de quasi la même catégorie socio-professionnelle, culturelle des parents, qui va, on va dire, de la classe moyenne... éclairée, cultivée à fort capital culturel comme moi, à la petite bourgeoisie, milieu bourgeoisie, grande bourgeoisie pour certaines, mais c'est plus rare, c'est plutôt de la petite bourgeoisie. Donc oui, ça nous réunit. Mais ouais, en termes d'amitié, d'alliance, de... Mais c'est normal, parce que quand il y a peu de place pour des femmes, elles sont rivales. Mmh. Et quand on commence à se sentir détendue, à avoir des places, des endroits de reconnaissance que les festivals commencent à inviter, d'un coup, il n'y a pas de raison de s'en vouloir. Il n'y a pas de raison de se battre pour la place. C'est ce qu'on voit avec toutes les minorités. Dans toutes les industries, les minorités se bouffent le nez. Moins il y a de place, plus les gens se détestent. Et ils n'arrivent pas à se déconstruire, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des alliances à mener, au contraire. Ça, c'est en train de changer. Et je crois beaucoup à l'amitié entre réalisatrices et réalisateurs. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'en Italie, il y a eu toute une génération de cinéastes, bon, alors là, que des hommes, mais une génération de réalisateurs qui s'entendaient bien et qui travaillaient les uns avec les autres. Et il y a ce personnage, là, je parle souvent d'elle parce qu'elle m'intrigue, je la vois dans le générique de tout, qui est une scénariste qui s'appelle Suzo Cecchi d'Amico, qui a été au cœur de plein de scénarios du néoréalisme italien, et qui a fait le lien, quoi, qui a fait le pont avec eux. Et je crois, je ne sais plus qui disait, mais passé un certain moment... Les réalisateurs italiens, ils n'ont plus pu se saquer. Mmh. Et en fait, c'est le moment où ça a décliné aussi le cinéma italien.
Incroyable! Comme si l'amitié était créative et permettait l'émulation et se pousser les uns les autres et avoir envie de voir les films les uns des autres.
Oui. Et sans enlever le côté, parce qu'on n'est pas des oies blanches, évidemment qu'il y a de la rivalité, de la compétitivité, j'allais dire comme un truc sportif, quoi. Mmh. Évidemment que. Mais...
C'est le game.
Bah oui, c'est l'amitié dans le game.
Ouais.
C'est la
camaraderie.
Oui. Ouais. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. J'aime ça.
Et est-ce que tu ressens la même chose parfois avec des actrices, ou c'est une autre relation que tu as avec tes comédiennes ou comédiens ?
Tu veux dire si elles ont, elles, une amitié entre elles ou une amitié avec moi ?
Avec toi.
Moi, j'en sens toujours une amitié, oui.
Ouais.
J'ai du mal, d'ailleurs, à d'un côté, je suis très... psychiquement, je mets au bon endroit, je pense, le travail qu'on fait, parce que, y compris avec mon producteur, je pense pas que ce soit une colonie de vacances de faire un film. Je pense pas que ce soit les gens qu'on aime le plus qui soient les meilleurs, ni techniciens, ni acteurs, ni actrices, ni réalisateurs, ni réalisatrices. Mais ce qui est certain, c'est que je ne peux pas travailler. Donc je fais la part des choses, voilà. C'est pas des gens, ni acteurs, ni actrices. J'ai l'intuition très forte, et elle se vérifie film après film, que ce qu'on vit pendant le film, on le revivra pas après. Même si on a une amitié solide. C'est comme un autre lien qui se nourra. Ce sera autre chose. Mais je ne peux pas travailler autrement que dans la paix. Je ne peux pas travailler dans le conflit. Ça ne m'intéresse pas. Je ne l'évite pas. Je le regarde, le conflit, quand il doit exister. Je peux taper du poing sur la table. J'ai une autorité. Tu m'as vu sur un plateau. Tu vois, je n'ai pas peur de dire de temps en temps « Je ne suis pas d'accord avec ça » ou d'être en colère s'il y a un retard. Parce que je ne veux pas qu'on me... Je respecte la liberté des autres, je veux pas qu'on empiète sur la mienne. Si on a une heure de retard sur la préparation d'un costume, d'une coiffure, d'un truc, ben en fait, on empiète sur mon travail. Je m'en ouf qu'elle ait besoin de se sentir à l'aise face au miroir, ou lui, ou le technicien, de faire une lumière. Je comprends même, mais je peux pas me sacrifier.
Bah, bien sûr.
Et j'ai besoin, moi, d'avoir le temps de travail qu'on me donne. Donc, si on a 9 heures de travail dans la journée, j'ai besoin de les avoir, voilà, c'est tout. Donc, je peux être, tu vois, un peu autoritaire. Je peux, quand il y a un chef de poste ou un acteur ou une actrice avec qui je vois que ça part mal, j'affronte le truc, tu vois, je regarde. Donc, je sais le faire, mais j'aime pas trop. J'aime bien la paix.
Ouais.
Je travaille bien dans la paix, dans l'amitié, dans l'humour, dans le kiff, dans le plaisir. Et voilà. Et sans que ce soit le moteur d'un film, je ne vais pas choisir un acteur ou une actrice parce que c'est mon ami, mon allié. Mais c'est vrai que ce sera un plus. Et là, c'est vrai que là, ça fait 2 films. Alors évidemment, j'adore... ça ne veut pas dire que je ne m'entends pas bien avec les autres acteurs et actrices. Au contraire, je suis très, très, très intime avec Léa Seydoux, toujours. Et avec Nathalie Portman, Lily Rose Depp, Emmanuel Saint-Linger, j'adore. Bref, les acteurs avec qui j'ai travaillé, on a gardé des liens vraiment forts. Mais là, dans le dernier film que je fais, dans Les Enfants des Autres, je vois bien que quasiment préexiste au casting mon désir de passer du temps avec eux.
Ah.
Et de me dire, tiens, c'est avec Virginie Erojdi et Kiara que je vais avoir du plaisir à faire le film.
Ouais.
Et après, on peut travailler, parce qu'il se trouve que c'est des grands-grands, c'est des grands acteurs.
Ouais, tu disais justement sur les seconds rôles, Chiara Mastroianni, qu'on voit juste dans quelques scènes, mais... Oh, elle existe hyper fort, c'est un super casting, parce qu'elle est différente de Virginie Efira, elle fait beaucoup plus fragile.
Ouais.
Et donc, c'est hyper réaliste le fait qu'on puisse... Enfin...
Qu'on puisse se dire qu'elle a une place dans la vie d'avant. Oh,
exactement. Et puis qu'on puisse se dire... peut-être que c'est trop à un moment que l'amour peut s'épuiser avec une femme qui a l'air d'être très très chamboulée, et que résultat l'amour avec une femme qui a l'air plus solaire rend crédible le fait qu'elle soit la nouvelle. Et ensuite, à la fin, quand elle revient, on se dit oui, mais ce qui la rend fragile fait que elle est éternelle et que ça sera elle, comme si...
Alors, c'est marrant, comme tu lis le film avec ce que tu es. Tu te dis mince, c'est quand on est... Bah, de toute façon, il y a toujours la sanction de quand t'es fort, tu payes 2 fois. Ou quand tu as la courtoisie de paraître fort, comme ce qu'a Virginie Fira dans la vie aussi. C'est genre la double peine. C'est d'une, tu te fais chier à vraiment surmonter par politesse tous tes gouffres et à pas les imposer aux autres. Et après, on va te dire « Ah, mais toi, t'as pas besoin. » T'en dire « Mais si, j'ai besoin. » Mais en fait, non, t'as pas besoin. Et un jour, tu trouves quelqu'un ou quelque chose ou quelque part ou un endroit dans lequel t'es à l'aise dans ta faille cachée, quoi. Pour revenir sur Kiara, moi, j'aime bien que tu le soulèves, parce qu'elle est... En vrai, il n'y a jamais de place pour 2 grandes actrices dans un film.
Ah oui, c'est vrai.
On se rendait compte, en faisant le film avec Kiara, on se disait, ah, c'est ouf, je ne vous ai jamais vu jouer ensemble, alors que vous êtes des actrices qui jouaient beaucoup depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu vois. Kiara et Virginie Efira, pour les mettre face à face dans quelques scènes d'un film, bah, faut s'accrocher, faut se lever tôt, parce qu'il n'y a jamais de la place pour 2 élistes comme ça, françaises. Et ben, en fait, si. Il suffit d'aller chercher un rôle dans lequel... Moi, j'avais besoin de quelqu'un comme Kiara, parce que, bon, à nouveau, c'était aussi un truc d'intimité, hein, c'est, j'avais le désir de travailler avec elle, mais ça faisait sens, parce que je me disais, tu la vois sur une photo au début, et après, elle doit irriguer le film comme étant une présence qui existe, un arrière-monde qui existe. Et ça, tu peux pas le faire si t'as pas une grande actrice, avec même, j'allais dire, un visage connu pour l'audience française. À un moment, on se dit, il est inoubliable, ce visage, bien sûr qu'il plane sur la relation, et j'ai pas besoin de faire un triangle amoureux dans lequel il y a une rivalité, parce que ça m'intéressait pas. Mais juste le fait de la présence de Kiara, ça nous racontait ça. Ça racontait qu'elle plane.
Il est indispensable, il est hyper important ce personnage. C'est comme dans The Affair, où t'as besoin que ce soit la femme comme la maîtresse. Il peut pas y en avoir une en dessous de l'autre ou une qu'on... Il faut qu'on puisse aimer les deux, comprendre, ressentir et détester parfois aussi un peu les deux. Et il y a plein de choses qui sont hyper subtiles dans ton film. Le moment de photo, alors je veux pas trop en révéler, mais aussi juste des détails... sur la féminité, où elle sort de chez elle, elle se met du gloss, puis finalement elle se l'enlève parce qu'elle trouve que ça fait trop. Et plein de trucs qu'on fait et qui sont hyper, hyper fins.
Bah ça, c'est un peu l'avantage, c'est ça qui nous manquait, je pense, quand on disait... Parce que le moment qu'on traverse, c'est pas seulement « Ah, invitons tout le monde à faire des choses ». Bah oui, mais non. C'est ce que ça signifie en vrai, c'est que dans la représentation de femmes et d'hommes, hein, parce que je pense que... J'espère que je suis juste quand je décris un homme aussi. Mais il y a certainement un endroit, en tous les cas, d'identification, puisque là, on est toutes les deux des filles qui nous parlons de ce personnage, dans lesquelles, c'est dommage, on a eu la sensation qu'il y avait comme tout un monde auquel on ne nous donnait pas accès.
Complètement. Complètement. Qu'on n'était que dans l'identification de personnages masculins. Que résultat, on les comprenait tellement, les hommes, dans tout ce qu'ils peuvent faire. Tu vois, on les comprend, on les aime, on se met à leur place, on peut imaginer ce qu'ils ressentent.
Et nous, femmes, on nous voit au travers de leur regard, qui de temps en temps nous met un tout petit peu à distance. On se dit, ah d'accord, faut être un peu Nadja dans le roman de Breton, quoi. Donc être une espèce de rencontre, voilà, irréelle, très fantasmée. C'est le grand bloc de l'altérité, le grand mystère féminin, de la jouissance, de... On sait pas très bien comment ça fonctionne, mais ça nous passionne, évidemment, la femme. J'ai envie de dire, à un moment, on peut pas, en fait, se satisfaire de ça. On peut pas s'identifier à ça. Même si on peut avoir un plaisir fou, mais même... Et puis ça se transforme en... ça peut se transformer en piège pour certaines femmes, de se dire on va se retrouver enfermée, emprisonnée dans ce qu'on imagine plaît à un homme. Quand je fais une fille facile avec Zaya, moi je suis fascinée en Zaya, mais je respecte cette liberté qu'elle a de prendre ça. Jusque là, ça m'intéresse de respecter sa liberté, mais moi je suis pas d'accord avec sa manière de avoir le désir de se geishaiser, parce que je vois bien qu'elle est construite par un héritage patriarcal dans son propre rapport à la féminité. Sauf qu'elle en joue, que ça l'amuse et que ça lui plaît. Donc moi, ok, non seulement ok, mais je veux le vanter. Après, c'est typiquement ce genre de moment où tu te dis, tiens, la somme des représentations qu'on a fait de nous peut influencer sur même l'idée qu'on se fait de nous.
Ah mais complètement, et c'est vrai qu'une fille facile, il y a un côté peut-être plus Hitchcockien, philosophique, suspense, où personnellement, je me suis pas identifiée, mais j'étais fascinée, dérangée, je trouvais ça nouveau quand même, toujours, tu vois, comme représentation, enfin, de le voir au cinéma dans un grand film d'auteur. Mais là, avec Les Enfants des Autres, ça m'a fait du bien, parce que j'ai manqué de ces récits, et que tu vois, justement, ce fait de couvrir les femmes de mystère, et que ce soit que les femmes n'aient pas de désir non plus, que ce soit les hommes qui soient les chevaliers, que les hommes qui soient en quête, les hommes qui écrivent des poèmes, et que les femmes désirent pas quand même, ou alors elles désirent mais elles sont tarées. Et là ça fait du bien de voir
C'est fou, hein, d'ailleurs tu te souviens, c'est marrant, j'avais lu un truc, parce que moi j'ai toujours eu envie d'écrire un thriller érotique, donc là je suis en train de m'y mettre. Ça fait 4-5 ans que je traîne cette idée, je commence et je regardais, tu vois, les propositions qu'il y avait dans les décennies qui sont passées, et en fait quand tu regardes dans les années 90, tu regardes un film comme Fatal avec Glenn Close, il y a toujours Glenn Close qui est libidinal. C'est quasi des films qui racontaient combien le désir d'une femme est menaçant, dangereux, et hystérisé, monstrueux, marginal, etc. Ouais. Excessif, enfin, que ça va pas. Et oui, effectivement, bon, ça a quand même vachement changé, pense. Et ça a tellement changé, même qu'il y a d'autres représentations presque stéréotypales qui se sont racontées de « on y va, on baise, on suce, on machin ». Bah oui, mais non, pas que. Il y a aussi une espèce de... Toi, quand tu dis je regarde tes stories avec des bouts de spectacle, tu dis, moi je tombe amoureuse quand on me pénètre, mais même digitalement. Ouais, moi, à chaque fois que j'ai couché avec un mec, je crois que j'y croyais, en fait. Il y a des moments où c'était plus hédoniste, j'allais dire, que d'autres, enfin, une espèce de masturbation mutuelle, mais il y a quand même il y a un espace de fiction où on y croit, en tous les cas, moi, même peut-être aussi de la vieille école, mais donc il y a ça. Et je pense que la responsabilité, c'est d'arriver. Quand tu me dis, c'est des récits qui me manquaient, mais il m'a manqué à moi en premier. Moi, j'ai failli y passer à cause de ça. J'ai failli, je pense, je me suis d'abord trouvée seule. Je me suis trouvée seule à vivre une situation Et quand je me retournais vers la fiction, elle n'existait pas dans la fiction. Mmh. Et alors, elle existait de manière hyper parcellaire. Tu vois, j'ai pas fait l'étude exhaustive de tous les films. Si ça se trouve, quelqu'un viendra avec un film en me disant « Tiens, il existe ce film-là », etc. Mais il n'existait pas, tu vois. C'est pour ça que je citais de temps en temps Kramer contre Kramer.
Ouais.
T'as des grands récits dans les 70s, 80s sur tu vois, des expériences.
Bien sûr, bien sûr.
Familiales, vécues par plein de gens. Là, d'un coup, on commence à comprendre que ça va être... Ben, le lot de collectif de beaucoup de monde, on va se séparer, on va arrêter de s'aimer, mais on aura des enfants. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette zone-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette cellule? Là, il existe des films. Mais sur une femme qui va pas avoir d'enfants, ou peut-être, mais en tous les cas espère, mais c'est compliqué, et qui découvre son désir de maternité parce qu'elle est une belle-mère, mais pas une méchante belle-mère, une gentille belle-mère, une belle-mère qui s'attache. Ça, ce personnage, non, je l'avais pas vu.
Oui, et peut-être que moi aussi je suis de la vieille école, mais en fait c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans ton film, le romantisme de Virginie Efira qui est partagé par l'amour qu'elle a pour cet homme et l'envie qu'elle a de devenir mère et ses hésitations là-dedans, puisque quand elle peut se douter que ça serait compliqué ou que lui tout de suite ne serait pas prêt... à devenir père, elle le quitte pas pour autant. Je veux pas trop en dire, mais elle est, c'est l'amour et c'est vrai que c'est pas. Je trouve que c'est pas un film. Tu rapetissis pas le féminisme à ça y est, les femmes sont égoïstes, choisissent, suivent leurs désirs et font ce qu'elles veulent. Non. Tu lui dis, tu montres le.
Elle pourrait. Ça aurait pu être une autre histoire, une femme qui a coûte que coûte, je sais pas, c'est un pitch de comédie.
Ouais.
C'est j'ai un an pour faire un môme, on y va.
Oui, oui.
Pourquoi pas? Mais c'était quelque chose dans... Enfin, c'était pas ce récit-là. Ce récit-là, c'est... Et la dimension peut-être un peu revendicatrice et politique, c'est de dire on a le droit de totalement décorréler les femmes de leur maternité. Parce qu'à un moment, dans le film, il y a quelqu'un qui lui dit « Mais moi, si tu veux, je t'en fais un. » Et moi, j'aimerais te faire un enfant. Il y a un type qui est amoureux d'elle, je ne spoil pas, qui lui dit « Mais moi, je t'aurais forcé à me faire un enfant. » Donc on sent... Bon, juste on est spectateur, on se dit « Tiens, il y a une promesse, il y a une possibilité. » Elle n'est pas en yinche. C'est pas une fille qui est... C'est pas impossible pour elle de caresser cette idée.
Ouais.
Mais elle le fait pas là. Et moi, ce que je voulais raconter, c'était que...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On peut être et totalement femme et complète sans enfant. On peut être et totalement femme et épanouie avec, en ayant l'impression de faire partie d'une expérience collective qui est celle d'être parent. Et entre les deux... c'est juste pas lié, quoi.
Ouais, mais c'est ce qui est génial, c'est que c'est
super. Et on a le droit de dire aussi qu'il y a de la souffrance.
Ouais.
On a le droit de dire, on va faire le deuil d'être quelqu'un qui voilà, je fais ce deuil, j'aurai pas d'enfant. C'est un petit moment dans la vie d'une femme qui est hyper fascinant, peu raconté, qui est ce moment de deuil où une femme dit, voilà, j'en aurai pas. Et j'épouse ça avec, j'essaie de le métaboliser dans ma vie, de trouver une issue de transmission. C'est un peu ce que raconte le film, mais ça, je veux pas le spoiler. Une issue de transmission, une issue de... Qu'est-ce que c'est? Voilà, dans la ville, il y aura des gens qui marcheront dans la ville et qui se diront « je ne l'oublie pas ». Ce ne sera pas tes enfants, ce seront d'autres enfants. Et donc ça, c'est possible, mais de raconter que c'est un process qui peut prendre, qui peut avoir et de la liberté, et du plaisir, et de la souffrance.
Et ce qui est fou, c'est que je pense que c'est rare de voir des films aussi grand public, parce que je pense qu'en fait, faut que, enfin, tous mes auditeurs doivent aller le voir, et je pense vraiment que c'est un
J'aimerais
film
que ce soit répété.
Non, mais tous les auditeurs et auditrices doivent aller le voir, qu'il y a enfin, tu vois, qu'il y ait plein, que ce soit un succès sale d'un film intelligent, mais qui est aussi accessible. Parce que déjà universel, très, enfin, je pense dans l'air du temps, et aussi parce que c'est beau à voir, que tu passes un bon moment, que c'est palpitant, mais c'est intelligent parce qu'il y a toujours une nouvelle ligne d'interprétation, de compréhension qui ne caricature jamais les désirs et les personnages. Tu vois, quand t'as une femme qui est rejetée par un homme, bah, c'est souvent vu quand même comme la pauvre fille, la Bridget Jones, la névrosée, celle... Et là, toi, et bah, pareil, je crois que j'avais jamais vu dans un film une femme qui est amoureuse d'un homme, mais désirée par les autres et désirée par un en particulier. Et donc, ça rajoute au fait que c'est plus réaliste, parce que c'est toujours comme ça dans la vie. Au moment où moi, je pourrais écrire un texte et dire « Putain, ça marche pas avec les mecs, je plais pas aux mecs », non, c'est pas vrai, je plais pas à ceux auxquels je veux plaire. Voilà. Et ça, c'est rarement vu, je sais pas pourquoi, je sais pas si parce que les films doivent passer...
Mais par paresse.
Ouais.
Parce que c'est plus simple d'écrire un personnage... C'est plus simple de charger la barque, y compris sur un certain système d'émotion.
Ouais.
C'est plus simple de charger la barque sur des rapports hystérisés, conflictuels entre les gens, que de dire « Ah, c'est complexe, c'est ambivalent, je suis et épanouie et hyper malheureuse, quelque chose me manque. Je suis et un être sociable et un être solitaire. Je suis et rejetée par l'homme qui me plaît et super désirée par d'autres personnes que je repousse. » C'est complexe, c'est-à-dire parce qu'on a besoin d'un moment de trancher dans la vie. Le cinéma, par ailleurs, je jette pas la pierre, je suis même pas sûre d'y arriver, moi. C'est dur, hein, d'écrire des personnages voilà, nuancés.
Et justement, comment est-ce que toi, pour tes films, à quel moment les idées naissent et tu te dis « Ok, maintenant, ça va être ça, je prends cette route ?»
Alors, c'est une bonne question. Tu vois, bon, pour chaque film, la réponse est différente et la question est différente. Là, pour celui-ci, parce qu'il est vraiment frais dans ma mémoire, j'ai le souvenir très précis que pendant longtemps, j'avance avec ce personnage en me disant « Voilà, pourquoi c'est pas raconté ?» Voilà des conflits moraux, des conflits de loyauté et des conflits intérieurs très forts dans un personnage. Mais je n'arrive pas à faire le film ou à me formuler que ça va être un film. Je me dis à ce moment-là, je peux pas faire un objet thérapeutique. C'est pas parce que moi je traverse ça et que ça me ferait du bien d'en parler que ça suffit pour demander des millions d'euros à des gens et d'investir, voilà. Donc j'ai une espèce de pudeur à ce moment-là. Je fais un long détour, j'essaie d'adapter un roman sur l'impuissance masculine, de le roman de Gary qui s'appelle « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable », pour revenir à l'idée que, ah non, en fait, ce titre, si je l'ai pris dans la bibliothèque, c'est parce que « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable », ça me concerne moi.
Waouh !
Ça concerne pas un mec qui peut plus bander, même si ça m'intéresse beaucoup de raconter ça. Et de déconstruire le viril, mais à un moment, ben, regarde les choses un peu plus modestement et parle de quelque chose que tu connais mieux et qui serait ça. Et donc je me dis, tiens, intéressant, je commence à me rendre compte que la situation, elle est très vécue autour de moi. Quand je commence à tester un peu, ah, tu travailles sur quoi en ce moment, t'écris sur quoi? Je dis, voilà, j'hésite à faire ça et je sens que les gens me disent, ça me rappelle que moi, je suis la belle-fille de quelqu'un, le beau-fils de quelqu'un, que je suis le beau-père ou la belle-mère de quelqu'un. Tout le monde est confronté quelque part, à de rares exceptions près, à cette configuration, à cette situation. Donc là, première résonance, je me dis, ah, un truc très intime, ça fait dring dans... Dring, bimp, je sais pas quel mot, ça résonne chez d'autres. Et troisième truc, c'est que je me dis à un moment, ok, alors pourquoi est-ce que je vais chercher des films qui parlent de ça? Je n'en trouve pas. Je me dis, ok, il y a un manque. Le manque, il n'est pas que en moi, il est aussi dans la fiction. Il est dans l'histoire de la représentation, ce manque. Et là, à ce moment-là, je connecte les trois points et je me dis, c'est une idée, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai besoin de connecter un sujet personnel, un sujet, on va dire, de collectivité, quoi, de social, humain, moral, un portrait qui ne me concerne pas que moi, et un sujet de cinéma. Et quand j'ai les trois, ça fait un film.
Et comment tu as pensé à Virginie Efira pour le rôle? C'est venu quand?
Je l'ai en tête depuis longtemps sur plein de films.
Ouais.
Elle est dans le paysage. Quand tu es réalisatrice en France et qu'il y a quelque part les assez doux, ailleurs Marion Cotillard, ailleurs Virginie Efira, ailleurs Marina Foïs, ailleurs il y a des Chiara Mastroianni. Il y a des actrices comme ça qui sont autour de nous comme des visages qui s'imposent, puisque moi j'adore travailler avec des stars. Il y a des actrices comme ça qui sont présentes et déjà désirées. Je suis très girardienne, j'aime bien quand les gens sont désirés déjà par d'autres, ça ne me dérange pas, au contraire. Et je parle de cinéma, bien sûr. Donc voilà, en fait, quand tu commences à écrire un personnage, tu caresses toujours un paysage que tu connais, enfin moi, oui. Et Virginie, elle est là présente dans ma vie imaginaire depuis longtemps. Sa manière de parler, sa manière de rire, sa manière d'être... j'allais dire... c'était ça, on avait touché du doigt là tout à l'heure, en tout début d'interview, où je te disais, il y avait quelque chose qui m'émeut chez elle, c'est d'être, voilà, en même temps, très désirée, en même temps solitaire, cette espèce de politesse, de prétendre aller très bien tout le temps, tout en sachant qu'il y a une faille, enfin tu vois, c'est des féminités différentes. Léa Seydoux, c'est autre chose, Marion Cotillard, c'est autre chose, voilà. Là, ce personnage, c'est certain qu'il y a une identification très forte entre Virginie et moi, hors plateau, et sur le plateau aussi beaucoup. Et du coup, autour du personnage, s'est construite la force, je pense, du film. Je pense même le fait que ce soit pas comme une muse, c'est tout de suite comme une sœur, y compris dans son corps, quoi. Elle a un truc de... Mais Léa, elle possède ça aussi, Léa Seydoux. Alors évidemment, elles ont la même beauté. Il y a une beauté folle qui fait que, bon, laisse tomber, t'y arriveras pas. Mais quand même, quand tu vois Léa dans Grand Central, elle marche comme un bonhomme, quoi. Il y a un côté... elle a un côté très terrien, très terre-à-terre. Elle se trafique pas dans une grâce éthérée de muse.
Non.
Il y a vraiment une relation possible à leur libido, à leur corps, à leur visage... à la pudeur de leurs émotions et en même temps à une immense force qui est dégagée, autonomie j'allais dire, une autonomie qui est dégagée de ces femmes.
Ouais, et d'un point de vue philosophique aussi, ton film, c'est l'amour pour les enfants, mais j'ai l'impression que ton film montre l'amour tout court. C'est-à-dire que moi, après, en sortant, j'avais aussi vachement d'amour... pour ma meilleure amie, tu vois. J'avais vachement l'amour gratuit, tu vois, l'amour qui ne peut pas se matérialiser ni par du sexe, ni forcément par un achat ou une... Enfin, tu vois, tu sais, l'amour comme ça, quoi. L'amour quand c'est juste
l'amour
là.
L'amour qui déborde, l'amour gratuit, l'amour qu'on a besoin de... D'abord, tu ne peux pas me faire un plus grand compliment sur le film. Moi, j'aime bien, quand j'étais ado et je vois, et enfin, les films qui m'ont donné envie de vivre dans le cinéma, quoi. C'était des films qui me donnaient pas envie que ça s'arrête à la fin, qui me donnaient envie de m'habiller comme l'actrice à la fin, qui me donnaient envie de ressembler et qui me donnaient la sensation qu'il y avait, il y avait de la vie à vivre, quoi. Et sans doute aussi parce que j'étais très solitaire dans ma propre existence et je vois bien ce que ça a pallié, qui est plutôt triste. Mais je crois pas qu'une seule personne fasse quelque chose sans avoir au cœur de soi une tristesse, une solitude à combler, quoi. Mais bon, voilà, ça va très 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 bien maintenant. Et en tous les cas, les films m'aidaient à ça. Et j'espère avoir proposé avec Les Enfants des Autres un film dans lequel il fait bon vivre. Dans lequel on est à l'aise, on se dit, tiens, on peut vivre avec ces personnages un peu. Je vois bien que l'héroïne, elle a... et c'est aussi lié à ce que ça signifie d'être mère ou pas. C'est qu'à un moment, elle a un amour très fort qu'elle peut transmettre et quel sera cet objet-là, quoi. Qui est l'objet, qui est le sujet qui va recevoir cet amour. Et comme elle ne peut pas le donner à un enfant qui serait le sien propre, ou peut-être qu'elle y arrivera, peut-être qu'elle n'y arrivera pas, il faut aller voir le film.
Ouais.
Mais je ne veux même pas faire une sorte de... C'est marrant parce que j'ai été interviewée. Moi, je suis tombée enceinte pendant le tournage. Et ce qui était très inattendu, alors je ne l'attendais plus et j'étais en train d'y renoncer, quoi. Et c'était une souffrance dans ma vie, j'en avais fait ce film, enfin voilà, tout le monde peut imaginer. Que ce film était
comme autobiographique.
Voilà, qu'il y avait une part d'autobiographie très forte là-dedans. Et je me disais, tiens, je vais m'écrire le film que j'ai besoin de voir pour surmonter ce deuil que je suis en train de faire maintenant, qui serait de je vais pas avoir d'enfant, je serai la belle-mère d'autres enfants et j'aurai une vie heureuse. Voilà, j'avais besoin de ce film. Je le fais, je tombe enceinte. Et je fais le film de manière. Alors que c'est au début de la grossesse, c'est toujours un peu invisible, c'était 3-4 mois ou 4-5 mois de grossesse, mais ça se voyait pas trop. Ça se voyait pas, donc j'étais là, mais sans être là enceinte, quoi. Je pouvais l'activer en moi. Je me disais, tiens, voilà, je vois bien que je porte un enfant, c'est un grand bouleversement dans ma vie. Et en même temps, personne ne le voit, et donc je continue de faire ce film comme ça. Bon. Et je sais plus pourquoi je te racontais ça. Pour le plaisir de le dire, je sais pas, c'est étrange. Non, mais pour le.
Tu disais que t'avais donné beaucoup d'interviews.
Non, mais aussi. Oui, et non, une interview dans laquelle les mecs me disaient, happy end, Hollywood ending, bah, en plus vous êtes tombée enceinte. Comme si c'était genre formidable, c'est bon, enfin ça a marché. J'ai envie de dire, bah oui, mais non. Parce que le film, il est fait pour raconter que c'est pas. Le Hollywood ending est pas forcément de l'avoir. Et d'arriver à traverser ce moment en toute liberté.
Ah ouais, complètement. Et puis, et sur le fait de. D'aimer, que ce soit les enfants des autres ou l'amour. Moi, j'ai toujours aimé passionnément mes profs de français. Mais vraiment, et c'est vrai que c'est pas un amour qui, dans la société, bon, on dit oui, c'est bien, mais moi, c'était un. Tu vois, je veux dire, bon, c'est pas comme ça que tu crées une famille,
tu vas pas aux amours avec ta prof de français, voilà. Je te confirme.
Mais moi, c'était des amours hyper puissant d'admiration, de dévotion, de lettres, de pot pourri, de fleurs, de pétales, de tu vois,
d'une c'est... éducation même de quelqu'un qui avait la place dans
ouais ton... qui m'aidait à grandir et qui donnait et c'est vrai que voilà et c'est vrai que il y a pas que l'amour romantique et c'est vrai que parfois et en plus je trouve que quand l'amour romantique va mal et qu'on se sent seul, c'est tous ces autres amours qui permettent tous les jours de mettre un pied dehors, en fait. C'est d'arriver et l'amour de Paris. Voilà, c'est de trouver Paris belle. Ouais. Bah, c'est un amour qui aide aussi. Ouais.
Et de l'amour pour une sœur, et de l'amour pour une amie, et de l'amour pour un ex-copain.
Ouais.
Et de l'amour pour un collègue, pour un enfant avec qui tu bosses. Bah ouais, moi j'ai été prof en fait avant.
Ah.
Non, mais quand je dis qu'il y a une part autobiographique, c'est pas des paroles en l'air. C'est j'ai été prof. L'homme qui joue le père de Virginie dans le film, c'est mon père. La tombe sur laquelle il prie, c'est la tombe de ma mère. J'y suis, bon, pour des raisons de droit de cimetière, c'était plus simple que ce soit les autres. Donc, mais quand même, c'est des. Et je vois bien que je ressens complètement quand tu parles de transmission, de circulation du love dans le film. C'est ça, oui, c'est. Où sont ces personnages-là, quoi? J'avais envie de lutter un peu, genre. Je peux être cliente de ça, et je dis le mot à escient, tu vois, parce que c'est plus un truc de consommation, de fiction, dans laquelle, je te dis, les personnages sont hyper durs, les femmes entre elles se disent, alors, pétasse, t'es avec mon mec, je suis genre, attends, excusez-moi, je comprends pas du tout, je peux pas comprendre comment vous parlez, je peux pas... Pour moi, la chose qui me touche le plus dans la vie, c'est combien on peut se faire du mal alors qu'on s'aime. C'est ça qui est violent, parce que se faire du mal si on s'aime pas, ou si on se déteste, ou si on se trouve lâche et idiote, c'est facile, rien de plus simple que de se faire souffrir quand on se déteste. Mais de se faire souffrir quand on s'adore, se faire souffrir quand on veut se faire du bien, se faire souffrir quand on fait partie de la même famille, se faire souffrir quand on a vécu quelque chose de très très puissant ensemble et qu'on n'a plus d'amour amoureux mais qu'on doit continuer une relation. Ça me plaît, quoi. Ça, c'est dur. Ça, c'est c'est ma vie au quotidien.
Je veux dire, et il y a une scène du film, quand on aura terminé, que je te dirai que j'ai trouvé très belle, mais pour pas spoiler, il faut encore une fois que les gens aillent voir le film parce que c'est une scène qui arrive vers la fin, donc je peux pas en parler, mais qui est très belle et qui m'a aussi énormément touchée. Et avant de te laisser, est-ce que je peux passer au questionnaire de Proust ?
Bien sûr, vas-y. Quand même sur ce truc des rebonds, tu vois, parce que c'est ça aussi, tu me disais, des personnages. Il y a aussi un truc dans le film qui était vraiment, je sais pas, je dis ça parce que je sens que c'est connecté, on est connecté là-dessus de temps en temps. Enfin, c'est ce qui me connecte à d'autres femmes, à des amis, c'est. De temps en temps, il y a des relations amoureuses, ce sont des relations qui ne sont pas la grande relation. Et c'est terrible parce que toi, tu vis un grand moment, mais l'autre ne vit pas le grand moment. Et donc, tu es ce qu'on appelle un rebond, quoi. Tu es la rebound girl.
Ouais.
Et ça, en fait, bon, bah, je l'ai été, d'autres l'ont été pour moi. Et au moment où tu le vis, tes amis disent « Mais c'est un connard !» Tu vas me dire « Mais pas du tout !» C'est un super choix de type. C'est juste qu'il ne va pas se forcer à vivre un sentiment qu'il ne peut pas vivre en tenté. Et ce n'est pas lié à moi, ce n'est pas lié à lui, c'est lié à un moment, à un timing, à tout un tas de choses. Il y a un ensemble, en fait. Donc ça me plaisait aussi de le raconter. Et ça aurait pu être un pitch de comédie romantique, mais je l'ai intégré dans ce mélodrame.
Mais t'as raison. C'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que c'est ça, l'histoire de l'amour, c'est l'histoire du temps. Mais moi, ça me donne envie de pleurer. Peut-être mon film préféré, c'est Les Parapluies de Cherbourg, tu vois. Et pour le coup, je peux parler de la scène de fin des Parapluies de Cherbourg, si vous ne l'avez pas vue. Mais c'est cette scène de station-service... Et du temps croisé, et c'est déchirant parce qu'en effet, tu peux haïr personne.
Personne, tout le monde a ses raisons là-dedans. Et ça parle d'un sentiment que personne ne désigne alors qu'il est dur à filmer, c'est le dépit. C'est pas le regret, c'est du dépit. Le dépit, c'est quand on se dit « Ah, dommage ». Ouais, ouais. C'est beau le dépit, hein. Le dépit amoureux, c'est magnifique parce qu'il y a de la noblesse de toutes parts. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est qu'autre chose est possible. Moi, j'ai jamais compris des gens qui avaient vécu des grandes histoires d'amour et qui se haïssaient après, se parlaient plus.
Ouais.
Je me disais, enfin, j'ai jamais compris. Je le comprends, mais je le conçois, mais je le vis pas. Et je le vis pas parce que j'ai pas envie de me punir deux fois. Et d'une, il y a une personne qui nous a tellement plu qu'on pouvait imaginer de vivre une vie avec ou de vivre une intensité amoureuse. Mais déjà, on est un peu déçu, ça marche pas. Mais si en plus on est un peu déçu, on va plus du tout se fréquenter, c'est vraiment débile. Donc j'ai accepté, j'ai embrassé mon dépit avec plein de gens. Enfin, plein, j'ai pas non plus eu 650. Bon, je dis des trucs très personnels.
Oui.
Alors, vas-y, je suis nulle dans les questionnaires. J'ai aucune imagination, aucune spontanéité, moi. Faut que je travaille entre les deux. Faut que je réfléchisse.
La qualité que tu préfères chez un homme ?
Sa possibilité de transformation.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
Son humour.
Le principal trait de ton caractère ?
L'humeur égale. Je suis équanime.
Ton principal défaut ?
Péremptoire. J'adorerais que quelqu'un dise hypocrite. Non, je pense, j'ai une certaine... Ouais.
Ton occupation préférée ?
Être en terrasse de café.
Ton idée du bonheur ?
La lumière.
Quel serait ton plus grand malheur ?
La solitude.
Où aimerais-tu vivre ?
Ici, là, maintenant.
Ce que tu détestes par-dessus tout.
La radinerie.
Tellement d'accord.
C'est dur.
C'est le pire.
C'est le pire parce que ça te force à te... En fait, non seulement tu subis la radinerie de quelqu'un, je ne parle pas seulement financière, hein. Financière, d'énergie, de temps, d'amour, de machin, mais en plus, ça te force à en être comptable. Ça te met dans la situation de devoir le constater. Et ça, c'est mesquin.
Comment aimerais-tu mourir ?
Entouré.
Est-ce que tu as une devise ?
Oui, rien ne m'est dû.
Waouh !
On ne me doit rien.
Quel est ton état d'esprit actuel ?
Léger.
Merci Rebecca.
Et voilà, c'était Rebecca Zlotowski. J'espère que vous avez apprécié sa sublime voix suave et que vous n'avez pas trop senti mon stress. Ma carte SD s'était cassée le matin même, j'en avais racheté une qui n'était pas appropriée pour mon Zoom, donc je nous ai enregistré à l'iPhone et j'ai travaillé le son au montage. Désolée pour les bruits de bouche, c'était le midi, on a déjeuné ensemble, Rebecca avait commandé des salades délicieuses, elle courait les interviews. Je lui suis très reconnaissante d'avoir trouvé cette heure, de m'avoir reçue dans son magnifique petit bureau du 5e arrondissement qui donne sur un jardin avec plein de jolis bibelots sur sa belle table en bois, des chats qui entrent et sortent et la regardent écrire. Comme vous l'avez compris, on se connaissait un peu déjà, on s'était croisés cet été à Belle-Île. Rebecca est incroyablement généreuse. Figurez-vous qu'elle m'a donné un vélo électrique dont il fallait juste changer la batterie et qui est maintenant mon vélo. Je vais demander à ce qu'on me prenne en photo dessus pour vous le montrer sur Insta. Il est tout blanc, il va à toute vitesse. Je suis très contente d'avoir pu aborder autant de sujets avec elle, de la sororité entre les réalisatrices de sa génération au personnage de Virginie Efira dans son film dont Rebecca donne joliment la clé. C'est hyper intéressant qu'elle nous livre comment l'idée lui est venue et étonnant qu'elle ait voulu au départ raconter l'histoire d'un homme qui ne bande plus, adapté au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, de Romain Gary. Finalement, elle s'est rapprochée d'elle-même. Elle parle beaucoup d'elle-même dans cet épisode, dans ce film, à travers ce personnage. Être la rebound girl, pas la numéro 1. J'adore sa vision de la noblesse, du dépit amoureux. Quand on peut pas s'en prendre à l'autre, juste se dire bah dommage. Enfin, je suis incroyablement inspirée par sa devise « Rien ne m'est dû ». Je sais que vous aussi, ces mots vont vous accompagner, ainsi que les images. Donc rendez-vous ce mercredi au cinéma. Je vous embrasse. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.